Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi. Nous sommes en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, les chroniques de nos partenaires et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on parle science et plus spécifiquement médecine en compagnie de Thierry Hoé qui est coordinateur scientifique du réseau HR2S, réseau régional de recherche sur l'humain recomposé et reconstruit en santé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc professeur à l'université et au CHU de Poitiers, et donc vous coordonnez ce réseau qui vient d'être officiellement lancé. Là, c'était au début du mois, mais en fait, ça fait déjà à peu près 2 ans que vous travaillez sur le projet.
Oui, exactement, même presque encore un peu plus de 2 ans si on compte la période en fait du Covid qui nous a un peu ralenti. En fait, ces réseaux, c'est une initiative régionale, c'est un dispositif régional de structuration de la recherche. En fait, c'est une démarche de la région pour essayer sur un terme donné de détecter, d'organiser, de structurer un réseau de chercheurs au niveau, au niveau néo-aquitain, avec des perspectives à la fois régionales, mais également aussi des perspectives nationales, voire européennes, dans les dépôts de projets.
Et rappelez-nous un petit peu, qu'est-ce qui a fait l'impulsion de départ pour cette médecine réparatrice ?
Alors, l'impulsion de départ, en fait, de cette médecine réparatrice vient de journées régionales que nous avions organisées à l'initiative de l'université et naturellement le partenariat de la région sur les moyens de réparation, de façon un peu triviale, hein, c'est vrai, ce mot veut dire finalement pas grand-chose, hein, et en partenariat, en fait, avec toutes les structures qui pouvaient aider à développer les nouvelles techniques de réparation, de restauration et globalement de lutte contre le handicap, qu'il soit physique ou psychologique. Et ces journées ont été, je dirais, particulièrement fructueuses, ce qui a poussé la région en fait, à nous recontacter après pour structurer un réseau homme réparé.
C'est ça, c'est que maintenant vous êtes un réseau, une fédération de plusieurs acteurs. Qui sont ces acteurs ?
Alors, les acteurs sont essentiellement acteurs académiques, essentiellement, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et qui dit naturellement académique, dit partenariat universitaire. Donc ça veut dire les universités, y compris les 2 universités de Bordeaux, hein, puisqu'on a Bordeaux et Bordeaux-Montaigne, on a Pau, on a Limoges, on a La Rochelle, on a Poitiers. Donc on est vraiment structuré au niveau des universités de la région, avec des équipes donc, de recherche que l'on a détectées, j'allais dire presque dépistées, identifiées en tout cas par une recherche justement sur le thème. Le thème a été défini par la région, et donc un thème de santé. Il n'y en a pas beaucoup de réseaux en santé dans le cadre du dispositif 3R, donc ça fait partie de ces réseaux en santé qui traitent donc de ce sujet. Comment restaurer, comment recomposer un individu qui effectivement a perdu des capacités, soit en termes de capacités physiques, en termes d'atteinte somatique ou psychologique.
C'est ça, peut-être qu'il faudrait définir un peu plus pour nos auditeurs et auditrices que c'est la médecine réparatrice. En fait, il y a différents composants de cette médecine, elle est assez globale. Hein.
Tout à fait. Alors, la médecine de réparation, médecine réparatrice, c'est vrai que des fois on est aussi avec la médecine de régénération, donc des médecines qui sont plutôt des médecines innovantes, qui font appel à des technologies innovantes. La définition, elle est relativement simple, hein, c'est 1945, réactualisé dans les années 80 par l'OMS. Qu'est-ce que la définition d'un individu en bonne santé ? Un individu en bonne santé, d'abord, c'était une vision globale, juste après la période donc, de la Deuxième Guerre. C'était à la fois la santé physique, psychologique, globalement, en fait. On était à la fois en bonne santé quand on était capable de, finalement, de vivre sa vie dans des conditions absolument de qualité, en fait. Et notamment, donc, sur l'aspect psychologique, il ne faut pas négliger. On peut très bien ne pas avoir de problèmes somatiques, avoir des problèmes, donc, psychologiques, qui peuvent, des fois, retentir sur des problèmes somatiques. Puis cela a été réactualisé avec une façon, d'une manière beaucoup plus globale, où, cette fois-ci, c'était l'intégration dans son cadre de vie, dans sa vie de tous les jours, mais la vie familiale, la vie sentimentale, la vie sexuelle, c'est vraiment un ensemble. C'est vraiment la globalité, en fait, de la santé.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle One Health, c'est une seule santé. C'est devenu une stratégie, en fait, mise en place, même au niveau national ou international.
Alors, c'est très bien ce que vous êtes en train de me rappeler sur One Health, effectivement. Alors là, on a aussi dans One Health la santé globale, en fait. C'est effectivement la santé humaine, mais c'est également aussi la santé des animaux et également l'environnement. Le développement durable au sens large, mais la santé végétale, j'allais dire entre guillemets, c'est-à-dire comment est-ce que l'on maîtrise notre environnement.
Donc oui, c'est une santé aussi avec la nature, effectivement. Alors si on revient à l'humain, ces différentes médecines réparatrices, elles engagent des spécialistes de plein de domaines, en fait. C'est une collaboration entre des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'ailleurs de collaborer avant.
Absolument. La santé, d'une manière générale, en fait, et puis, je dirais, le maintien et l'amélioration de la santé, c'est en fait, c'est différents partenaires. Hein. C'est les chercheurs. Alors, chercheurs aussi bien, j'allais dire, comme on dit des fois un peu science dure, fondamentalistes, mais également des sciences humaines et sociales, qui sont des partenaires extrêmement importants. Ce sont également les industriels. On ne peut pas les écarter, parce qu'il y a là des biotech, des spin-off, des entreprises qui sont très très impliquées sur le marché effectivement de la santé. On a aussi également les patients, et notamment donc les associations de patients. Et il ne faut pas oublier les cliniciens, ceux qui sont vraiment au contact du malade. Et donc on a là quelque chose qui est assez transactionnel finalement, puisqu'on implique plusieurs partenaires. Et si on prend cette fois-ci une dimension, j'allais dire, un peu plus, macro, on a aussi l'aspect macroéconomique de la santé. Est-ce qu'on peut, mais ça c'est un autre débat. Est-ce que la santé aujourd'hui, il faut prendre en compte la charge financière qu'il peut y avoir derrière, surtout le développement de nouvelles technologies. Donc ça implique ces partenaires regroupés au sein de centres de soins, de centres de recherche, d'unités de recherche, avec des partenariats avec le tissu naturellement socio-économique, ce qui est extrêmement important. Pour avoir, j'allais dire, les différents développements que l'on peut envisager, les différents axes de recherche que l'on peut envisager, et qui sont relativement vastes dans le domaine de la santé. Donc il faudra faire attention à bien les structurer, à ce que ces projets soient bien organisés, et en prenant naturellement en compte la dimension, j'allais dire, sociale, psychologique, et naturellement les patients. Puisque les patients, au bout du compte, c'est quand même ceux qui vont à la fois recevoir les avancées, mais également se questionner. Un point très simple, un exemple très simple. La xénogreffe, par exemple, aujourd'hui, la xénotransplantation qui est en train de se développer, on a entendu des avancées majeures, c'est pas quand même quelque chose de très facile à faire accepter. Il faut que le patient puisse comprendre ce que le chercheur fait pour lui et bien lui rappeler effectivement quels sont les enjeux.
Oui, on va parler justement de ces enjeux-là d'éthique peut-être, ou en tout cas de questionnement de la société. Juste pour terminer sur ce réseau, c'est quand même une centaine de chercheurs, enseignants-chercheurs qui potentiellement peuvent s'impliquer dans le projet.
Alors on a pas loin maintenant de 50 unités réparties donc sur notre territoire néo-aquitain. Et on a, oui, une centaine de chercheurs référents, je dirais, par unité. Mais aujourd'hui, globalement, au nombre de chercheurs qui sont impliqués, on est presque à 200.
Presque 200 chercheurs donc, dans ce réseau régional de recherche sur l'humain recomposé et reconstruit en santé. On va aborder voilà, les différents projets que ça peut concerner et puis les échéances à venir. Je vous propose juste de continuer en musique avec la réalisation de 15 albums et plus de 800 concerts. Martin Nathan multiplie depuis 20 ans les propositions artistiques les plus aventureuses et diverses sous le nom de Brain Damage. Il est considéré comme l'un des créateurs de la scène dub en France à la fin des années 90 et donc il a influencé toute une génération de musiciens. Il vient depuis 2023, donc fin 2023, il a fait paraître son 16e album où la recomposition intégrale d'un moment de reggae contemporain à partir des bandes originales du mythique album Hebron Gate de Groundation. Voici donc un extrait, le titre Spitfire.
Fire as Judas calls. À quoi tu penses?
Tu sais. Hein? Il est chez toi en plus.
Ah ouais?
Ça va mieux.
Se sont peut-être rappelés des bons souvenirs à certains et certaines d'entre vous, puisque ça fait partie donc du mythique album Ebrangé de Groundation, qui fête son 20e anniversaire et donc qui a été revu par Brain Damage. Notre invité du jour, c'est Thierry Howe, qui est coordinateur scientifique du réseau HR2S, le réseau de recherche sur l'humain recomposé et reconstruit en santé, qui vient donc d'être officiellement lancé pour une feuille de route de 5 ans, c'est ça qui vous a été accordé?
Alors, globalement, la feuille de route est de 5 ans, donc on a quand même à déduire le temps de mise en place du projet. Et donc, on va avoir en fait 4 ans à peu près, environ.
Alors, quels sont, est-ce que vous vous êtes fixé un petit peu des priorités? Est-ce qu'il y a des axes de travail pour ces 4 ans qui vous restent?
Oui, on a... Alors, déjà... On a une priorité, j'allais dire, dans le fonctionnement. À quoi sert un réseau de cette nature-là? Est-ce que c'est une couche supplémentaire où les chercheurs vont se demander quelle est leur place exactement et qu'est-ce qu'on attend d'eux? En fait, ce réseau, c'est avant tout une structure qui va leur permettre de se poser des questions, de se faire aider quelque part dans le cadre des appels à projets. Et d'ailleurs, dans le cadre de la coordination, j'ai aussi un collègue qui est Noël Richard, et donc qui est deuxième coordonnateur scientifique Poitevin, et donc Émeric Lecor qui est avec nous. Et donc, on travaillera justement à répondre aux questionnements des chercheurs pour les projets, une veille en fait scientifique pour les projets, quelles démarches il faudra faire, toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur aller rechercher finalement des financements importants. Il faut voir qu'on perd énormément de temps aujourd'hui en recherche à ça. C'est quand même un temps consacré qui est énorme et qui ampute quand même la capacité de travail. Donc, leur apporter une aide supplémentaire et, j'allais dire, les conforter dans les démarches, les assister, est une chose qui peut être positive. En complément des dispositifs qui existent, bien entendu, c'est certainement très précieux pour eux en évitant de leur donner une surcharge de travail. Par contre, ce sera... Le réseau participera à leur société savante, aux réunions scientifiques, aux différents congrès qu'il peut y avoir, où là, manifestement, le réseau manifestera vraiment clairement son appui à cette démarche, à la démarche scientifique qui est envisagée. Donc vraiment ce rôle qui est essentiel, mais pas un rôle, j'allais dire, de supplémentaire, mais qui chronophage, qui peut les troubler.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets concrets qui peuvent s'inscrire dans ce réseau?
Alors, il y a dans ce réseau, il y a donc trois axes. Il y a un axe qui est un axe plutôt d'imagerie, qui est un axe plutôt de biomécanique, de biomatériaux, de biocompatibilité, en fait, globalement, où on peut avoir, là, par exemple, des projets de développement de nouvelles céramiques, par exemple, dans le cadre d'objets chirurgicaux, d'outils chirurgicaux, de matériel prothétique compatible avec les tissus biologiques. Et à côté, avec les compétences que l'on a retrouvées dans la région, on a tout un aspect de modélisation, d'imagerie, en fait, pour voir comment ces différentes structures évoluent et comment cette biocompatibilité, en fait, se réalise. C'est un exemple. Dans l'axe 2, on est plus sur des outils innovants, et là, on rejoint un aspect un peu éthique dans le développement de nouveaux modèles qui vont justement limiter l'utilisation in vivo, qui pose aujourd'hui un problème dans la société. L'utilisation des animaux est une véritable problématique. Donc là, on a une approche qui est comment est-ce que l'on peut utiliser des modèles plus complexes que de simples cellules pour pouvoir reproduire finalement une structure qui ressemble un peu à celle d'un organe. Et donc là, on a des approches avec des compétences sur différents sites, notamment en termes d'organoïdes, hein, c'est-à-dire de mini-organes, hein, très simplement, de mini-organes associant plusieurs types de cellules et que l'on peut donc faire fonctionner, avec lesquels on peut étudier donc un certain nombre de mécanismes. Donc l'idée, c'est d'aller vers l'étude des mécanismes en limitant l'étude in vivo et en tout cas en l'utilisant de façon beaucoup plus rationnelle. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Et on a vraiment, je dirais, pas mal de compétences capitalisées au niveau de la région dans différents types de pathologies, dans la peau, par exemple, dans le système nerveux central, mais également au niveau du rein, au niveau de la transplantation. Donc on a pas mal d'outils, on a pas mal d'applications potentielles. Et le troisième axe est un axe très transversal vers la clinique, et également aussi vers l'aspect, comme on a dit, l'aspect social, l'aspect éthique, l'aspect beaucoup plus même aussi juridique. Hein. On faut bien voir que une nouvelle technique, de nouveaux soins doivent être aussi bien intégrés au niveau juridique, en termes de responsabilité, d'application, comment est-ce que ça s'appliquera effectivement au niveau de l'humain. Donc on a ce troisième axe qui est un axe là, finalement, qui est translationnel avec les deux autres. Et on a un axe très, très colonne vertébrale finalement, qui est le patient. Où est le patient dans cette affaire? Comment il se comporte avec les annonces qu'on lui fait? Comment il accepte toutes ces évolutions, et comment on l'aide à l'accepter, à le comprendre. Souvent, le scientifique, de façon très, très logique, développe sa recherche, avec sa vision, finalement, un peu quelque part, et en se disant, j'ai des applications, il est très heureux dans les applications, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce qu'attend le patient? Est-ce que c'est compatible? Et derrière, on aura tout ce que peuvent nous apporter les sciences humaines et sociales, pour bien réfléchir à l'application société et macroéconomique.
C'est ça, c'est que la science peut aller très loin, mais est-ce que c'est une demande de la société ou des patients? Et est-ce que c'est accepté? On a tous en tête des films, des fictions, des hommes robots, de cette de transformation un petit peu du corps qui peut arriver ou qui peut être crainte. Et justement, si vous luttez contre ces images-là peut-être un peu...
Alors vous avez tout à fait raison, et souvent on nous pose la question du transhumanisme. Mmh. Et là, la réponse est tout à fait claire, c'est pas l'homme, on n'est pas là pour faire un homme augmenté, le but n'est pas d'avoir un homme augmenté, le but est de restituer une autonomie. Le but est de lutter contre un handicap, une pathologie, et de restituer une autonomie. Donc de revenir à la définition globale de la santé. On n'est pas là pour faire des cyborgs, on n'est pas là pour faire des surhumains, entre guillemets, on est là pour faire des gens qui vont vivre mieux et qui auront donc réintégré leur état de santé optimal.
On va terminer sur un rendez-vous, donc c'est le 18 juillet, c'est le premier séminaire du réseau.
Alors c'est le premier séminaire du réseau, alors cette fois-ci c'est le séminaire qui va être scientifique, mais qui n'est pas simplement réservé effectivement aux scientifiques, c'est essentiellement les partenaires scientifiques, les acteurs scientifiques du réseau qui seront là, et donc ça va être une réunion sur les trois axes en fait, mais on aura des représentants quand même à la fois des patients et également aussi du monde socio-économique qui seront avec nous.
Merci beaucoup Thierry Hoé, donc coordinateur scientifique de ce réseau HR2S pour humains recomposés et reconstruits en santé. Merci d'être venu dans Séquence Midi.
Merci à vous.
Tout de suite, c'est la chronique du Toit du Monde avec Louis-Marie Bonneval qui rencontre Fabien Delafève.
Fabien, tu travailles à la FEV à Poitiers, qui est partenaire du Toit du Monde pour le monde en fait. Que veut dire AFEV et qu'est-ce que c'est?
Alors l'AFEV, c'est une association qui est née en 91, du coup de trois étudiants de Nanterre. L'AFEV, elle lutte contre les inégalités socio-éducatives. Donc on va surtout intervenir en lien avec les écoles, donc ici à Poitiers avec toutes les écoles de Poitiers, pour lutter contre les inégalités face aux devoirs et aussi pour l'ouverture culturelle.
Et AFEV, ça veut dire?
AFEV, c'est l'association de la Fondation des étudiants pour la ville.
Et comment les étudiants peuvent vous contacter?
Alors, on a la page Insta de la FEV, AFEV Poitiers. Du coup, il y a la page Insta de la FEV nationale également. On a un bureau en permanence ici à la Maison des étudiants. On a aussi un bureau à Rivaux en centre-ville. Et on a notre tiers-lieu, La Franchie, qui est sur la place Notre-Dame.
Alors, quel est ton rôle? Et est-ce qu'il y a d'autres animateurs de la FEV à Poitiers?
Alors, moi je suis salarié de la FEV, donc je travaille principalement sur les actions éducatives. Donc mon rôle, c'est d'être en partenariat avec les écoles pour faire du repérage sur les enfants qui ont des problèmes au niveau de l'école. Et ensuite, moi j'essaie de trouver des bénévoles étudiants à raison de 2 heures par semaine pour les aider à faire leurs devoirs, organiser des sorties, aller au musée, aller voir des concerts au cinéma et tout ça.
Donc tu viens de donner des exemples, tu peux nous citer des projets en cours?
Alors des projets en cours, déjà il y a Participation au Toit du Monde, qu'on fait tous les ans, on en parlera après. Nous on organise tous les ans la Fève en fête, donc une journée assez festive avec beaucoup d'activités, chasse au trésor, olympiades et tout ça. On organise des sorties au planétarium, on organise des sorties au cinéma, au Dietrich. On fait plein de choses. Tous les mois, on a à peu près une activité culturelle qu'on propose à nos jeunes mentorés.
Alors justement, la FEV interviendra sur le monde en fête, c'est dimanche prochain, 2 juin. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce jour-là?
on prévoit 4-5 activités. La première, du coup, on prévoit un jeu de passeport. Donc ça, ça va être la grosse activité de la journée, animée par nos volontaires en service civique. Alors, le jeu du passeport, du coup, on est en lien avec toutes les associations qui vont participer au Monde en Fête. Et donc, on va proposer aux enfants d'aller voir les associations directement pour s'intéresser à ce qu'ils font. Et on leur fait un petit passeport, donc ils vont devoir tamponner une fois qu'ils ont posé la question à l'association et qu'ils sont intéressés aux autres associations. Donc ça, c'est la première grosse activité. La deuxième, on va faire un petit coin lecture pour les 3-6 ans. Comme ça, ça fait un petit peu garderie, hein, dit comme ça, mais
oui.
C'est un peu le cas, sera animé aussi par nos volontaires qui ont une formation sur la lecture à haute voix. On aura aussi un endroit où on va faire une fresque avec le thème du voyage. Donc le but sera que la fresque s'étende et s'étende et s'étende et qu'à la fin on ait une grande fresque de dessin faite par les enfants. Et on aura aussi un atelier land art, donc on va proposer aux enfants de dessiner leurs mains avec des brins d'herbe et des feuilles qu'ils vont récupérer sur le lieu pendant l'activité.
Parfait, et ben rendez-vous donc dimanche 2 juin sur le à Chassaigne.
Merci beaucoup.
Merci à vous et pour les autres rendez-vous, voici votre agenda. Lundi détente comme tous les lundis de 14h à 17h30 à la Maison des Trois Quartiers, la M3Q. Un lundi détente avec des jeux de cartes, des jeux de société, un thé, un café et des discussions. C'est donc entrée libre et gratuite tous les lundis à 14h. L'Europe au quotidien à 14h aussi, Europe Direct, Poitiers-Vienne-de-Sèvres et le Groupement d'Action Locale vous invitent à découvrir le fonctionnement de l'Union Européenne et des fonds européens sur le territoire de Civray lors de la journée L'Europe au quotidien. Il y aura une table ronde, un atelier sur l'UE, une exposition pour découvrir le fonctionnement de l'Union européenne et les projets locaux financés par l'Europe. C'est à La Margelle, à Civray. Soirée salsa bachata kizomba, comme tous les lundis à 21h au Republic Corner avec DJ Alex de Poitiers Salsa et un cours à partir de 20h. Pause doudou, le rendez-vous des bébés, c'est demain matin à 9h30 et à 10h30 à la médiathèque de Civaux. Histoire, comptine et jeu de doigts sur le thème des transports par Stéphanie. Attention, c'est sur inscription pour demain matin. Sur Pulsar, retrouvez à 18h And The Tap Drips, à 19h X-Bill, à 20h Punks et de 21h à 23h Scrognonieux. Merci Grégory pour la réalisation technique. On se quitte tout de suite avec un petit peu de Carnaval de Rio. C'est le premier album de Fulu. Bonne écoute, à demain.
De moitié qui ne font pas un.
Sorriso stridente dal cappuccio nero. The shit.
chien, toi, t'es qu'un chien. E même pas, dov'è la tua casa? E anche il caso non teme. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto. Chien della classe, io sono serio. Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei fermo, chiamami. Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia. Saint jamais la montrer. Fermati, aspetta. Vai via. Fermati, aspetta. Non c'hai fretta. Non c'è fretta. E se invece da oggi ti guardi allo specchio, ringrazi quel vecchio che un giorno sarai. Bambino rinato ogni istante diverso, mai perso né illuso, escluso, mai, mai più. Se abbassi la guardia ti lasci ammaestrare, scoprirai.